vient de passer 3 mois dans l'évangile de Marc. On a vécu ces paroles fortes de Jésus. Et peut-être ce serait dommage de passer trop vite à autre chose, sans continuer de nous demander ce que cela change dans notre manière de vivre, les réalités de la foi chrétienne, et notamment dans notre société aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire de vivre en chrétien dans notre culture aujourd'hui? Dans son épître aux Romains, Paul nous exhorte à ne pas nous laisser modeler par le monde actuel, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et sans doute, il est utile d'approfondir en quoi l'incarnation, la mort sur la croix, la résurrection ne sont pas uniquement des faits objectifs dans lesquels nous sommes appelés à croire, mais sont comme ce grain de blé qui meurt en nous et qui nous fait porter du fruit que nous pouvons produire nous-mêmes. D'une autre manière de le dire, peut-être un peu plus marketing, croire en l'incarnation, la mort et la résurrection le dimanche, qu'est-ce que ça change concrètement le lundi matin? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut juste y croire le dimanche, hein, vous comprenez la manière de présenter les choses, mais voilà, on confesse de belles choses, on les chante, mais concrètement, de quelle manière cela devrait nous faire aborder notre semaine, notre manière de vivre différemment? Alors ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous comment nos vies, notre société nous poussent dans un processus permanent de rentabilité, de réussite, de gain, et dans toutes ces sphères. C'est notre préoccupation de chaque semaine. Comment faire pour que notre semaine se passe le mieux possible, que notre temps soit utilisé le plus efficacement possible, que nous répondons au mieux à nos engagements de travail, de famille. Mais cela impacte aussi nos temps de repos. Il faut que nos temps de repos soient efficaces, qu'ils nous procurent un certain plaisir, qu'ils nous permettent de profiter au mieux de nos divertissements préférés. Et pour beaucoup d'entre nous, je pense que nous sommes embarqués dans ce processus, dans cet engrenage sans fin, où ce que j'entreprends doit porter du fruit, m'apporter quelque chose. Je dois réussir. On rattrape les slides, du coup. Et ce qu'on constate dans notre quotidien nous amène aussi à nous pencher plus globalement sur ce que notre société appelle réussite ou échec. Car on est bien sûr conditionné par la pensée du monde de notre siècle présent en la matière. Je ne vais pas me lancer dans une grande étude sociologique, mais j'aimerais juste repérer 4 domaines de la vie où elle nous fait penser les choses d'une certaine manière et pour une certaine raison. Il y a bien sûr la question professionnelle. La société nous pousse à entreprendre des études et on pousse nos enfants à le faire. Il y a bien sûr l'idée de travailler dans un domaine prestigieux et ce sera vu comme un symbole de réussite. Avoir un métier qui a du sens, où on voit quel est notre apport à la société. D'après la pensée de notre siècle, je réussis quand je me sens utile. Un autre domaine où la question de la réussite intervient, c'est bien sûr la question matérielle. Pouvoir s'acheter ce que l'on veut, faire quand on veut les dépenses que l'on veut, se payer n'importe quel plaisir. Ce que je possède me protège du manque, du besoin. Je réussis quand je me sens en sécurité. Le domaine de la famille aussi, un domaine où la question de réussite selon notre société intervient. Alors on ne parle plus de mariage aujourd'hui, mais malgré tout, la notion de créer une sphère avec un conjoint, avec des enfants, des personnes qui ont un lien qui ne dépend pas uniquement finalement de ce que l'on apporte, ce que l'on aime, et uniquement parce qu'on a notre place dans cette sphère-là, un lien que je pourrais qualifier d'inconditionnel. Et là, c'est je réussis quand justement je fais partie d'un l'ensemble où j'ai ma place, parce que je suis père, mari, conjoint, grand-parent. Et enfin, le dernier domaine, c'est le domaine social. Les réseaux d'amis, réels ou virtuels. Là aussi, il est question de réussite. Plus j'ai d'amis, plus j'ai d'invitations, plus j'ai de likes, plus cela signifie que j'ai de la valeur. Que je suis quelqu'un qui est apprécié pour ses idées, pour sa créativité. Je réussis parce que l'on choisit de m'aimer, cette fois-ci. C'est plus la relation inconditionnelle, c'est le fait que je rayonne de quelque chose et on me choisit. Alors l'idée était de traverser cela rapidement, pas de faire une synthèse sociologique, mais juste pour souligner cette tyrannie de la réussite qui est dans toutes les sphères de notre société, qui est liée finalement à nos besoins fondamentaux. Et le siècle présent m'incite à réussir pour combler justement ces besoins fondamentaux. Alors bien sûr, en tant que chrétien, la grande question, c'est de s'interroger en quoi la foi va nous amener un rapport différent à toutes ces questions sociétales. Et traditionnellement, la foi chrétienne nous alerte sur le danger de nous confier trop fortement dans ces réussites. Si je place mon identité, ma valeur, ma sécurité dans mon travail, dans mon argent, dans ma famille, dans mon réseau, eh bien je ne laisserai pas à Dieu la place qui lui revient. C'est ce qu'on entend chaque dimanche, j'ai envie de dire. Seul Dieu est celui qui peut nous satisfaire pleinement. Et on s'exhorte à cela. Plusieurs passages bibliques nous exhortent à cela. Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et d'une manière plus positive, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Des principes bien connus sur lesquels nous nous délectons le dimanche, et la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent le lundi matin quand la semaine commence ? Alors, je pense qu'il y a des choses que l'on fait concrètement. Probablement, tout faire pour la gloire de Dieu va nous pousser à exercer notre métier avec une certaine intégrité, à éduquer nos enfants avec amour et, on l'espère, équité. J'ai perdu la main à nouveau, non ? Voilà, la justice. Probablement, cela nous pousse aussi à garder un certain équilibre entre tous ces domaines. On ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Par exemple, on va se protéger d'un métier trop envahissant parce qu'on comprend qu'il va nous voler du temps à notre famille. Il y a un certain équilibre qui s'opère. Mais là, on doit constater qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont découvert ça, n'est-ce pas ? Beaucoup de nos contemporains arrivent au même constat sans pour autant y mettre Dieu. Alors, est-ce que c'est ça la seule différence de la foi chrétienne quand la semaine démarre ? On peut ajouter d'autres choses qu'on fait en tant que chrétien. Nous prions le Seigneur que nos enfants réussissent leurs études et qu'ils aient un beau métier pour leur avenir. Je suis le premier concerné, mes enfants pourraient en témoigner. Nous cherchons la volonté de Dieu pour notre travail en nous en remettant à lui pour savoir si on doit accepter cette promotion qu'on a nous-mêmes sollicité, et si Dieu nous la donne, c'est que c'était sa volonté, n'est-ce pas ? Même si elle nous prendra du temps sur notre famille, sur l'Église, sur nos amis. Nous témoignons de la gloire de Dieu en orientant nos conversations vers nos succès. Oui, c'est Dieu qui a permis ça, mais on va quand même orienter vers ce qui fonctionne bien. À y regarder de plus près, même si c'est pour la gloire de Dieu, ce sont bien toujours les mêmes désirs de réussite qui vont dicter nos choix, nos prises de décision. Et même quand on réfléchit la vie d'Église, on est toujours confronté à cette question de la réussite. On va évaluer nos actions pour témoigner sur la base de savoir s'il y a beaucoup de gens qui sont venus. On va évaluer nos moments où on veut se rassembler, comme nos rencontres de prière, sur la base de si on était nombreux. Ça va nous encourager. Si on n'était pas nombreux, ça sera plutôt décourageant. D'ailleurs, pensez-y, mardi, c'est la rencontre de prière. Le pasteur peut être découragé de pas se retrouver avec grand monde. Mais le ministère du pasteur, du missionnaire, lui aussi, est valorisé en fonction de ses succès. Est-ce que son église grandit ? Est-ce qu'il apporte, il amène des gens à se tourner vers Dieu ? En fait, le critère de réussite est partout. Comme nos contemporains, nous devons constater que nous sommes englués dans une logique de gain. Et d'ailleurs, il y a des passages bibliques qui vont dans ce sens, hein. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Est-ce que c'est cela, la valeur ajoutée de la foi chrétienne ? S'en remettre à l'Éternel dans l'espoir qu'il fasse fructifier nos entreprises, que nous réussissions là où nous prenons l'initiative. Ah, je pense qu'il y a de ça. On ne va pas complètement le gommer, mais c'est sur un autre terrain qu'il me semble qu'on va aller ce matin. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que c'est ça la seule différence entre finalement un chrétien et un non-chrétien, savoir que la bénédiction vient de Dieu, qu'il y a un créateur et que c'est lui qui permet toutes ces choses, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autres à découvrir. Un renouvellement de l'intelligence. Est-ce que si l'on en reste uniquement à cela, on ne serait pas en train de rater quelque chose d'important? Alors normalement, le temps passé dans l'évangile de Marc devrait nous avoir mis sur une autre piste. L'évangile de Marc est marqué par bien des inversions qui devraient inspirer notre approche de la réussite. Et je vais faire quelques rappels, alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est des choses qu'on a méditées les derniers mois. On l'a souligné dès le départ, Marc n'est pas un fanat du suspense. Il annonce dès le départ que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur qui vient en personne. Et dans la première moitié de l'Évangile, eh bien, on voit, en effet, on est témoin de ce que cela change, que le Fils de Dieu soit venu parmi nous. Jésus guérit les malades, calme la tempête, multiplie les pains, chasse les démons, ressuscite des morts. Il annonce que le royaume de Dieu s'est approché. Et en attendant et en étant témoin de tous ces miracles, à la suite de Marc, eh bien, on s'attend à ce que Jésus détruise par sa puissance toute opposition. Voilà qui correspond bien à notre manière habituelle de voir la réussite. Mais vous vous rappelez aussi la seconde partie de l'Évangile, ce moment où tout s'inverse. Au moment même où les disciples qui ont tâtonné jusque-là reconnaissent enfin qu'il est le Messie, eh bien, la situation prend une tournure inattendue. Tout s'inverse. Nous voyons le Messie persécuté par ses ennemis, abandonné par ses amis et par le Père lui-même sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et au milieu de tout cela, un des versets qu'on repère souvent comme un verset clé de l'évangile de Marc, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, réussir, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Une affirmation à rebrousse-poil de notre manière de voir le succès. Et d'ailleurs, ce principe de la grande inversion qu'on a dans les évangiles en général, et dans l'évangile de Marc en particulier, n'est pas uniquement repérable dans le destin de Jésus qui s'inverse progressivement et qui finit sur une croix. Il se vérifie tout au long de l'évangile. Dans l'évangile de Marc, les positions des privilégiés et des marginaux sont inversées. Ceux qui ont l'autorité, les privilèges, rejettent Dieu, Jésus comme Fils de Dieu, et son enseignement. Les gens du bas de l'échelle, les méprisés de la société juive, eux accueillent l'évangile avec joie. Souvenez-vous de Lévi, souvenez-vous du lépreux, souvenez-vous de la femme et de ses hémorragies, de la femme cananéenne, de ceux qui amènent des enfants à Jésus alors que la tendance serait de les repousser. Et Jésus synthétise toutes ces situations dans une autre de ses formules bien senties, bien des premiers seront les derniers, bien des derniers seront les premiers. À nouveau, une inversion. Mais peut-être qu'en rester là nous amènerait à voir Jésus un peu comme un révolutionnaire au cœur tendre, un Robin des Bois des temps anciens qui redonne un peu d'équité en prenant chez ceux qui ont beaucoup pour donner à ceux qui ont moins. Mais ce n'est pas exactement cela, me semble-t-il, la pointe justement de l'Évangile. C'est plus qu'une inversion des rôles, c'est une redéfinition de la puissance. Et on le voit particulièrement dans la manière dont ceux qui exercent l'autorité à l'époque de Jésus, on peut penser à Hérode, on peut penser à Pilate, vont voir cette autorité totalement réduite à néant. Hérode, par exemple, obligé de mettre à mort Jean-Baptiste parce qu'il a été séduit par la danse de sa belle-fille. Pilate, il cherche à libérer Jésus, mais face à la foule et à le fait qu'elle le presse, il ne voit d'autre moyen que de le condamner à mort. Dans l'Évangile, les puissants de ce monde sont finalement faibles, totalement prisonniers des principes du monde. À l'opposé, le sacrifice de Jésus sur la croix n'apporte pas seulement le salut, mais il constitue la réfutation parfaite de la pensée du monde, qui fait de la réussite un totem. Jésus, qu'on a vu, qu'on nous a présenté comme tout-puissant, renonce à cette toute-puissance pour arriver à l'impuissance la plus totale du sacrifice sur la croix. Et cette faiblesse apparente de Jésus s'avère en définitive une force. Cette apparente impuissance de Jésus devient puissance de l'amour dans celui qui place sa confiance en lui. Une fois de plus, la grande inversion est à l'œuvre. La perte est bien plus puissante qu'il n'y paraît, la réussite bien plus friable. Tim Keller donne une illustration très parlante qui nous montre à quel point la notion de perte nous est étrangère. Il imagine ce que cela aurait donné si on avait demandé à des experts en communication de coacher la carrière d'une personne qui voudrait avoir un impact similaire à celui de Jésus dans le monde. Il nous invite à imaginer ce plan com que ces spécialistes mettraient sur pied s'ils voulaient qu'à l'instar de Jésus, cette personne laisse une trace indélébile dans l'histoire de nos civilisations. Que des personnes soient marquées de la même manière par l'enseignement de Jésus, même si elles n'y croient pas totalement d'ailleurs. Ou que des personnes soient marquées par Jésus justement comme cette personne qu'elles placent au centre de leur vie. Alors je ne sais pas à quoi ressemblerait exactement ce plan com, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle serait aux antipodes de ce qui s'est passé pour Jésus. Né dans une famille modeste, dans un des endroits les moins estimés de l'époque, quelqu'un qui ne cherche pas à s'impliquer dans les réseaux, justement, politiques, économiques, universitaires, quelqu'un qui ne cherche pas à surfer sur sa popularité, quelqu'un qui, face à l'accusation injuste, ne présente aucune défense. Au contraire, il laisse la calomnie triompher. Quelqu'un qui finit mis à mort comme un criminel, qui ne laisse aucun héritage digne de ce nom à faire fructifier, aucun écrit de sa part, aucune œuvre. Seulement 11 gars, plus paumés les uns que les autres, qui vont parler de lui au monde entier. Aucun mania de la com n'aurait misé un seul euro sur ce scénario. Jésus, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, a complètement renversé ce que nous voyons comme le principe de réussite. Il a perdu pour que nous gagnions, il s'est dépouillé pour que nous nous revêtions. Il l'a fait non pas en mettant un peu de Dieu sur les principes de ce monde, ce qui nous ressemble souvent, mais en les renversant. C'est sans doute l'apôtre Paul qui traduit avec le plus d'acuité ce grand renversement. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas connu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui semble annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Le Messie crucifié était folie pour les Grecs, faiblesse pour les Juifs. Pourtant, par sa vie, sa mort, sa résurrection, Jésus démontre, non sans ironie, que ce que le monde appelle grandeur et sagesse est au cœur même de la folie dans laquelle s'enlise notre humanité depuis qu'elle a échoué au Jardin d'Éden. Croire en l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus, cela a donc un impact radical sur la manière d'envisager les principes qui régissent notre monde. Le changement n'est pas juste de mettre notre vie d'avant sous le regard de Dieu, j'ai envie de dire ça c'est la première étape, mais de renverser profondément notre conception de la réussite et de l'échec, du gain et de la perte. Alors, je ne voudrais pas être mal compris. Méditer sur notre vision de la perte, de l'échec, ça n'a pas à voir avec le misérabilisme. L'idée n'est pas de renoncer à toute situation, toute position qui est valorisée par notre société. Vouloir être médecin, même vouloir gagner de l'argent, avoir des followers, ce n'est pas ça le problème en soi. Mais l'Évangile nous pousse à ne pas nous conformer par la pensée du siècle présent. Pour notre siècle présent, la perte, l'échec, apparaissent certainement comme la chose la plus indésirable qui soit. Ce qu'on a, on ne veut pas le perdre. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans notre travail, dans nos conflits sociaux. On a obtenu des droits, il ne faut pas les perdre. Pour notre siècle présent, la réussite, le gain, apparaissent toujours comme particulièrement désirables. Avoir plus, obtenir plus, nous paraît toujours un chemin préférable. Pourtant, la perte est au cœur même de l'enseignement de Jésus, au cœur même de l'Évangile. Nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, c'est probablement apprendre à voir la perte, le sacrifice, comme un chemin qui concourt à notre bien. Forcément, cela nous interroge. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, pour finir, peut-être je vais qualifier ça sous deux formes de perte. Il y a la perte, tout d'abord, subie. Celle que va constituer l'épreuve, la souffrance. Ça peut être un deuil, ça peut être une situation stressante, insatisfaisante, qu'on n'a pas choisie. Et nous ne sommes pas maso. L'idée n'est pas de choisir ces situations. Elles apparaissent comme des chemins difficiles et elles l'ont été, on l'a vu, pour notre Seigneur lors de son temps sur terre. Pourtant, et ceux qui suivent le livre de Job pas après pas, on en prend de plus en plus conscience, toutes ces situations sont aussi un moyen qui nous révèle particulièrement la présence de Dieu dans notre vie. Ne gâchons pas ces situations qui nous attristent en ne les vivons pas sous le regard de Dieu. Ça, c'est la première type de perte que je qualifierais, la perte subie. Mais il y a une deuxième perte sur laquelle j'ai été un peu mis devant peut-être mes propres manquements cette semaine. C'est la perte choisie. N'est-ce pas là un changement particulièrement saisissant qui devrait s'opérer chez celui qui a choisi de suivre Christ lorsque la sonnerie du réveil du lundi se met à sonner? Est-ce qu'une valeur ajoutée du christianisme ne serait pas d'apprendre à perdre? Pas au Monopoly, hein. Apprendre à perdre dans notre propre vie. Est-ce que je suis dans un rapport à ce que je fais, à ce que je vis, toujours sous le regard de la rentabilité, du gain permanent? Ou est-ce qu'il y a de la place pour la perte choisie, le sacrifice volontaire? Est-ce que ça pourrait passer par le fait de donner un objet que j'aime particulièrement? Pas parce que j'en ai plus besoin, mais parce que ce serait peut-être libérateur pour moi. Est-ce que cela pourrait passer par renoncer à une part de confort pour aider quelqu'un, accueillir quelqu'un? Est-ce qu'il y a de la place dans mon emploi du temps pour me laisser interrompre, me laisser prendre mon temps qui est si précieux, écouter quelqu'un qui en a besoin? Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs en rompant avec cette tyrannie du temps rentable que je trouverai plus de temps à passer avec Dieu? Est-ce que je conçois mon engagement dans l'Église ou ailleurs d'ailleurs uniquement comme quelque chose qui devrait m'apporter le sentiment d'être utile, l'impression que cela me fait grandir dans ma relation avec Dieu? Ou est-ce que je suis prêt à l'offrir en sacrifice pour que le Seigneur en fasse ce qu'il veut? Quand est-ce que j'ai expérimenté pour la dernière fois une perte choisie? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vous invite à